Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour un nouvel épisode dans le Bunker, consacré aux films et aux séries de guerre, ou en tout cas qui parle de l'armée et du fait guerrier, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Henri Chouet, dit athée, ancien pilote de chasse dans l'aéronaval, notamment vous avez piloté sur Rafale Marine, désormais conférencier mais aussi vidéaste, notamment sur YouTube mais aussi sur Twitch. Vous avez des chaînes que je recommande très vivement à tous ceux que l'aviation intéresse, que je suis depuis le lancement. Vous faites à la fois des séances de questions-réponses sur, sur votre vie et votre carrière passée, des vidéos de simulation, notamment sur Flight Simulator, mais aussi des analyses de situations ou de vidéos d'aviation lorsqu'elles surgissent sur Internet pour débriefer telle ou telle situation de manœuvre ou de combat. Donc bonjour, merci d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, vous êtes ici pour nous parler d'un film que je connaissais pas, je dois dire, jusqu'à ce que vous me le recommandiez, et que j'ai trouvé proprement hallucinant, qui est Le vol de l'Intruder de 1991 de John Milius. Alors, je vais résumer l'histoire à grands traits, puis on entrera dans le détail ensuite. Mais globalement, ça tourne autour de l'équipage d'un bombardier d'assaut A6, qui était des avions donc de la marine américaine, qui partait de porte-avions. Dans la dernière phase de la guerre du Vietnam, ça se situe vers 1972, on le sait parce qu'il y a des références aux négociations de paix et au déclenchement de la campagne de bombardement Linebacker par Nixon sur le Nord-Vietnam. Donc, c'est un film de John Milius, ce qui est toujours un peu particulier, parce que c'est un réalisateur un peu spécial, disons, c'est le réalisateur notamment de Conan le Barbare, pour lequel il est le plus connu, avec Arnold Schwarzenegger, mais c'est aussi un des scénaristes d'Apocalypse Now, et on en reparlera peut-être, mais il était assez connu à Hollywood pour se trimballer tout le temps avec des flingues, et pour être fasciné par les histoires de guerre, pas spécialement sous l'angle pacifiste. Pour avoir une idée de sa réputation, d'ailleurs, on peut se référer au Big Lebowski des frères Cohen, ou le personnage de Walter Sobchak, qui est cette espèce de vétéran un peu dingue, et très directement inspiré du vrai John Milius. C'est un film qui est donc aussi un très très beau casting, avec notamment Donald Glover, qu'on connaît notamment pour ses apparitions dans L'Arme Fatale, mais aussi Willem Dafoe, Rosanna Arquette, Tom Sizemore, et à vrai dire, celui qui a eu la bonne carrière de tous, c'est l'acteur principal, qui est Brian Johnson, qu'on n'a plus jamais vraiment revu. Enfin, c'est aussi des scènes d'aviation et de combat aérien, mais surtout de bombardement, que j'ai trouvé assez dingue tant elles sont spectaculaires, et clairement, ils ont sacrifié pas mal d'avions pendant le tournage. Mais donc, dites-nous, vous qui avez été pilote dans l'aéronaval, et certes, vous n'avez pas fait le Vietnam, enfin je pense pas, mais vous avez connu un peu ce genre d'univers et d'ambiance de porte-avions, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce film ?
Ah, c'est un film mythique. Je pense qu'important, c'est de préciser qu'il est sorti après Top Gun. Il est sorti en 91, à peu près avec la sortie de la guerre, avec le début de la guerre du Golfe. On est sur un registre... Alors, j'ai presque envie de dire plus réaliste, même si au niveau du scénario, il y a des fois de quoi se tirer les cheveux. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est vraiment embarqué, au sens premier du terme, avec une unité de combat, avec les doutes. C'est-à-dire que généralement, dans la plupart des films, surtout américains, c'est très va-t'en-guerre, c'est super et tout, les personnels n'ont absolument aucun doute. Et là, le personnage principal passe quand même tout le film a douté sur plein de sujets différents, donc ça met une vraie dimension, je trouve, une vraie dimension humaine dans le film, et ça peut être vu comme un film d'action au premier abord, mais après je pense qu'il y a différents niveaux de lecture, et c'est ça qui est sympa.
Alors c'est assez fascinant effectivement, parce qu'en plus ça renvoie à quelque chose d'intéressant sur la guerre du Vietnam, c'est l'intersection de plein de dimensions. D'abord, ces bombardements permanents, mais aussi, et c'est ce qu'on voit rarement, c'est la représentation du sentiment d'inutilité totale de la part des soldats américains, en l'occurrence des marins, qui, en fait, c'est un peu, on peut le dire, le cœur du film. C'est-à-dire, ils ont l'impression de passer leur temps à bombarder des choses qui servent à rien. Et du coup, un jour, ils vont essayer de bombarder quelque chose qui sert vraiment. Et c'est ça, un peu, le nœud du film. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? C'est-à-dire, de ce côté où on donne des objectifs, et au final, c'est parfois le sens qui manque derrière, quoi.
Mais justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a généralement tendance à dire que le militaire, il est là pour obéir presque bêtement, hein, à un certain niveau de lecture. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans des armées plus professionnelles, on a plus de renseignements, et là, clairement, le cœur du problème, c'est que les militaires, ils sont prêts à tout, et on le voit bien, ils sont prêts à mourir, ça leur pose pas de soucis, ils sont prêts à faire leur mission, mais ils veulent pas faire ça pour rien, et quand on les envoie se faire tuer, et ils perdent un de ses navigateurs, le personnage principal, quand ils vont subir des pertes pour aller tirer des bombes sur des forêts parce que les renseignements sont pas bons, forcément ça vient affecter le moral, et je trouve ça intéressant parce que c'est une thématique qui est quand même rarement traitée, et qui est très juste, et qui est souvent auto-censurée par les auteurs d'autobiographies après, derrière. Donc on retrouve quand même pas mal d'auto-censure, je trouve, dans tous les récits militaires, et là pour le coup ils ont attaqué le sujet de manière assez frontale.
Ouais, on peut dire, c'est intéressant que vous ayez fait le parallèle avec Top Gun, parce que c'est vraiment les deux films mythiques, enfin j'allais dire c'est les deux films mythiques, mais comme je l'ai dit, je connaissais pas ce film là, mais en tout cas Top Gun est souvent l'étendard des films de l'aéronaval, c'est-à-dire donc de ces avions embarqués sur des porte-avions, à ceci près que Top Gun est en fait un film qui se passe essentiellement à terre, puisque ça n'est qu'à la toute fin qu'ils sont embarqués sur un porte-avions. Et ça, c'est vraiment l'originalité de ce film, c'est que c'est vraiment une campagne de bombardement au Vietnam, c'est vraiment des pilotes qui sont des marins, qui sont sur un porte-avions, qui côtoient des marins du porte-avions, et c'est vraiment une ambiance embarquée que, en fait, j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir déjà vu au cinéma, ce côté, bah, en fait, c'est des aviateurs, mais c'est pas vraiment des aviateurs, puisqu'ils font partie de la Navy américaine.
C'est ça, et en fait, tu as non seulement cette partie, cette dimension embarquée, mais cette dimension un peu hors du temps, parce que quand tu es marin du ciel, t'es affecté sur un bateau, mais tu n'es pas dans le rythme classique du bâtiment, et donc tu es un peu en train de flotter entre deux mondes, tu es pas vraiment dans le monde du bateau, avec ses contraintes et une certaine rigidité. Toi, t'es vraiment là pour mettre en œuvre ton aéronef, et du coup, par moment, il y a des phases où il se passe pas grand-chose, donc on se retrouve souvent à... Ce que j'aime bien dans le film, il y a des discours qui sont assez sympas, les échanges sont assez travaillés, et c'est vrai parce que bah, le marin a le temps, surtout l'aviateur a le temps, du coup souvent les mots sont assez bien choisis, où il y a pas mal de second degré ou de messages un peu cachés, donc moi je trouve que cette dimension est très bien mise en avant, là où Top Gun on est vraiment dans de la compétition de testostérone assez basique et le mythe du surhomme, mais je suis un grand fan de Top Gun aussi, mais on n'est pas du tout sur le même degré de réalisme, le temps s'arrête plus, ça fait un petit peu penser au crabe tambour, hein. Ouais, par certains moments, donc on est plus proche du crabe tambour que de Top Gun, effectivement.
Ouais, par ailleurs, c'est intéressant parce que ça renvoie à une époque de l'aviation qui est assez différente. Alors, d'abord, on va dire que c'est très différent de Top Gun pour la simple et bonne raison qu'on ne représente pas du combat aérien, enfin, à une exception près. C'est pas avion contre avion, c'est pas ce qu'on appelle du dogfight. Bon, on pourra y revenir éventuellement, mais parce que c'était un problème pour les Américains aussi pendant la guerre du Vietnam, que le dogfight était ils n'étaient pas terribles en dogfight, et c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre de choses comme Top Gun ont été créées pour requalifier, enfin pour faire remonter, disons, ces compétences chez les aviateurs américains. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une représentation qui n'est pas souvent vue, c'est celle du bombardier. C'est-à-dire, c'est l'avion qui a pour fonction de viser le sol, entièrement le sol, qui d'ailleurs, et c'est un peu le cœur du propos, qui se défend assez mal. Ce sont des avions qui sont là pour faire mal, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens de défense, notamment contre les missiles solaires, qui sont ce qu'on appelle les SAM dans le film, qui sont les grands ennemis. Et par ailleurs, c'est aussi un truc marrant, ça renvoie à une époque où des avions pouvaient un peu disparaître, c'est-à-dire où les équipages partent pour une mission et peuvent décider de faire autre chose en plein milieu, où ils n'ont plus vraiment de lien avec leur commandement à l'origine. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas souvent représenté et ça renvoie à une période de l'aviation dont on ne parle pas si souvent.
Disparaître dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que tu peux disparaître des écrans et aller faire un peu, voilà, te réinventer des objectifs, ce qui n'est pas forcément impossible de nos jours non plus, hein, mais surtout ne pas rentrer, au sens où le Vietnam est quand même une guerre où il y a eu énormément de pertes, et il y avait une présence de missiles solaires et de canons anti-aériens, de défense solaire qui était juste monstrueuse, donc avec énormément de risques, énormément de pertes, et des pilotes, des équipages qui subissaient quand même de très lourdes pertes, là où de nos jours on est quand même sur des théâtres d'opérations beaucoup plus aseptisés, avec une vision de la prise de risque qui n'a absolument rien à voir.
Ouais, et c'est vraiment amusant parce que c'est pas habituel de voir ce sentiment de vulnérabilité des aviateurs. On sait les armées modernes sont des armées où on perd peu de monde, mais alors c'est particulièrement vrai de l'arme aérienne où c'est vraiment très rare d'avoir des pertes de nos jours parce que les avions sont bien plus performants en général que les défenses solaires. Ou en tout cas, ils s'aventurent pas dans ce genre de situation. Et là, il y a une sorte d'idée qui est vraiment, enfin, que je pense qu'on n'avait pas tellement vu depuis. peut-être la bataille d'Angleterre, quoi. L'idée que quand on part, on peut très bien ne pas revenir et que, en fait, être aviateur, c'est quand même pas bien confortable parce que quand on est sur un territoire ennemi, y a quand même de grandes chances de pas revenir.
Mais je pense que si on regarde les chiffres, ils sont quand même assez parlants, hein, mais on n'en parle pas souvent. Mais le Vietnam, hein, les Américains ont perdu à peu près 10 000 aéronefs, donc que ce soit avions, hélicos ou des sortes de drones de l'époque, mais c'est 3 744 avions qui ont été perdus au combat là-bas, enfin perdus tout court, et 5 607 hélicos, donc c'est juste monstrueux. On n'a pas. On est loin d'avoir 10 000 aéronefs dans les forces armées, en tout cas en France. C'est des chiffres assez monstrueux.
Ouais, et c'est alors c'est par ailleurs c'est assez fascinant parce que c'est il y a enfin ça ressemble aussi à beaucoup de films sur la guerre du Vietnam, mais et c'est là c'est vraiment un film de John Milius, mais c'est disons l'ennemi est très invisible, il est vu seulement sous la forme de ses armes, c'est-à-dire de ses missiles qui sont menaçants, de ses canons anti-aériens qui sont menaçants, mais il n'y a pas de enfin le Viet Cong est un ennemi invisible à peu près déshumanisé, juste sur la fin on en voit un ou deux qui sont très méchants, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? À la fois c'est révélateur d'une certaine perception américaine de la guerre du Vietnam, et en même temps c'est aussi intéressant sur le point de vue de l'aviateur qui au fond voit pas forcément ce qui se passe à terre jusqu'au moment où il est descendu, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la base, ce film est tiré d'une œuvre quasi autobiographique, enfin pas franchement inspirée de la vie de son auteur. Donc, il a été écrit par un pilote de A6, Stephen Counts, là. Et je pense qu'on voit un petit peu la guerre à travers ses yeux. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un bateau, vous êtes assez isolé. Même, moi, je suis parti après le Bataclan en 2015-2016. On avait un faible accès à Internet et on voyait la situation. On voyait les opérations sous le prisme de nos officiers renseignements et on avait à peine accès à l'information, à la presse ou ces choses-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a une vision très parcellaire de ce qui se passe sur le théâtre et on n'a pas forcément le temps de s'y intéresser. C'est-à-dire qu'on est tellement pris par notre quotidien, par nos préparations de mission, par les fonctions qui sont les nôtres. On voit qu'ils ne sont pas que pilotes, ils ont également des fonctions managériales à côté. On est sur un bateau, on a quelques officiers dans l'unité, il faut gérer les hommes et tout. Qu'au final, eh bien, on part, on fait la mission qu'on nous dit de faire, mais on n'a qu'une toute petite vision de l'ensemble. Et c'est vrai, on peut avoir tendance à faire une représentation assez simpliste de ce qui se passe au sol, tout simplement parce qu'on n'a pas, on n'a pas le temps d'élaborer plus et on n'a pas accès aux informations. Donc se dire, de ce côté-là, c'est les méchants, fin de l'affaire, moi j'y vais et c'est des canons, des obus, je pense que c'est pas si faux que ça, dans la mesure où en plus à cette époque-là, l'accès à l'information était quand même assez compliqué.
Ouais, ça c'est assez fascinant dans le film parce qu'on voit en gros ils cherchent à bombarder Hanoï parce qu'ils ont, enfin, bon, ils ont une grosse cible à Hanoï donc ils ont envie de bombarder Hanoï. Et ce qui est fascinant, c'est de voir qu'il y a à peu près aucun moyen de savoir ce qui est où à Hanoï. Se choper un plan d'Hanoï, c'est un enjeu monstrueux. Ils sont obligés de faire du chantage. Enfin, ça, c'est encore une autre partie du film. Mais pour réussir à avoir un plan de Hanoï et où telle chose qu'ils voient à la télé peut bien se trouver. Enfin, c'est vraiment très intéressant sur l'époque où, ben voilà, les images satellites, il y en avait guère. Et où, pour avoir des objectifs, ben on se repérait beaucoup plus avec des points visuels, avec des renseignements et des repères à terre, que, ben, j'imagine, la navigation aujourd'hui qui est largement GPS guidée, etc.
Ouais, voilà. Et puis l'autre point, c'est qu'à cette époque-là, la guerre se faisait beaucoup en très basse altitude. On voit que c'est des avions de pénétration plutôt basse altitude. Leur objectif principal, c'est de détruire les défenses adverses pour pouvoir après laisser passer les bombardiers de l'US Air Force et autres. Donc ils sont constamment essayés de se cacher avec le terrain, à faire de la pénétration très basse altitude. Une très grosse charge de travail. Et c'est des choses auxquelles on s'entraîne encore de nos jours, mais qui sur les théâtres actuels ne sont pas utilisées. Tout simplement parce que, bah, d'un point de vue politique et autres, on n'a pas forcément envie de prendre les risques associés à l'évolution d'avions de chasse à très basse altitude. On le voit à un moment dans le film, hein, il y a une personne qui se prend une balle d'armement légère, hein, les avions de chasse, si vous tirez à la Doucette ou vous tirez même à de l'armement classique vers l'avion et que ça passe au bon endroit, ça peut toucher le pilote. Donc le fait de voler si bas, ça vous rend vulnérable à n'importe quel type d'armement et forcément, statistiquement, ils ont beaucoup plus de pertes. Donc ça, c'est un point important aussi, je pense, qu'on voit bien dans le film.
Et alors concernant justement ces avions, alors moi j'ai été assez époustouflé hein, par les images aériennes, par ces avions qui sont très beaux, qui ont l'air extrêmement maniables, qui sont agiles, qui sont etc. Mais en même temps, je sais pas si dans quelle mesure. Alors, j'imagine que vous avez pas volé sur Assis, mais je sais pas dans quelle mesure ce sont des scènes réalistes. Par exemple, on avait beaucoup loué Top Gun pour le réalisme de ces scènes sur F-16. Dans quelle mesure est-ce que les scènes aériennes qui étaient montrées vous ont paru, bon, disons, des bonnes représentations de ce qui aurait pu se faire dans les années 70 dans l'armée américaine, enfin, dans la
marine. Moi, j'ai trouvé ça assez réaliste, comme de manière générale. Il y a même une scène, moi, qui m'a marqué pour toute ma carrière, qui est une scène où ils mettent en œuvre un missile de nuit et son navigateur, officier système d'armes, lui dit de fermer les yeux au moment du départ missile. À cause de la source lumineuse qui vient de la propulsion du missile. Et ça, c'est très intéressant parce qu'aux États-Unis, on y est très sensibilisé quand on fait la formation avec l'US Navy. Et ils nous apprennent justement des techniques qui est de fermer un œil, qui est une source de lumière de nuit, de manière à conserver son acuité visuelle de nuit. C'est très très important en avion, encore plus au-dessus de la mer. Il y a vraiment peu de références. Et donc ça, c'est une scène qui m'avait marqué et qui m'a servi, moi, derrière, pendant toute ma carrière, où j'avais tendance, des fois, à fermer un œil au roulage, enfin, dans plein de situations, et je pensais toujours au film. Donc,
Et où tout le monde de la Marine nationale se demandait ce que vous faisiez avec un œil fermé.
Ouais, mais personne voit, hein, c'est l'avantage du monoplace. Moi, je pilotais tout seul, j'avais l'air bête, mais tout seul, donc bon, j'assume. Mais des petites choses comme ça. Par contre, d'un point de vue tactique, il y a certaines incohérences, ça on est d'accord, mais de manière générale, c'est assez bien rendu. On a des vols à un moment où ils s'amusent un petit peu en basse altitude. Il y a la notion de plaisir qui est importante dans le pilotage. C'est des métiers assez complexes, mais la notion de plaisir est quand même assez importante dans ce métier.
Et souvent, on les voit faire des tonneaux, ou on les voit faire, mettre le toit vers le sol pour descendre plus rapidement. Ça, c'est des manœuvres réalistes, ou c'est...
Ouais, c'est assez réaliste, en fait. On veut passer sur le dos pour descendre, pour rester en facteur de charge positif, c'est plus agréable, c'est mieux pour l'avion également, c'est plus efficace. Donc ça, c'est des choses complètement réalistes. Après, ils ont tendance à faire des tonneaux, s'amuser un petit peu avec les avions. Bah, ils peuvent, hein. C'est un avion qui bouge bien et tout est bien attaché parce qu'ils ont été catapultés, donc ça pose aucun souci. Ils profitent un peu d'être sur chasseur-bombardier. S'ils sont sur chasseur-bombardier, ils voulaient peut-être faire chasseur, du coup, bah voilà. Du coup, ils sont entre les deux. Mais bon, ils s'amusent comme ils peuvent avec leur petit vol, là, comme on dit. Mais ça reste un bel avion. Mais blague à part, oui, c'est des avions assez manœuvrants. Moi, je trouve que les prises de vue aériennes rendaient très bien. Deux, trois petites incohérences scénaristiques, mais rien de bien méchant. Par contre, je pense qu'il y a une belle leçon. Il y a une belle leçon autour de la discipline. C'est-à-dire qu'on suit clairement un équipage qui n'est pas forcément le plus discipliné de l'histoire de l'aéronautique navale. Dans la marine, dans l'aéronavale, la discipline, c'est quelque chose de quand même très très important. Eux, ils s'en tirent bien, sans donner trop de spoilers, ça se passe bien pour eux. Mais on le retrouve à la fin, avec un petit peu une scène assez mythique où il y a un avion qui est éjecté. Ensuite, on a notre petit équipage d'indisciplinés qui arrive avec une grande musique à l'américaine, genre c'est les sauveurs, pour se retrouver au sol quelques secondes après. Et donc, je pense que là, en fait, c'est pour ça qu'il y a différents niveaux de lecture. C'est qu'on se dit, ah, super, une salle d'action, ça tire de partout. Mais d'un point de vue purement militaire, se faire abattre deux avions en l'espace de quelques minutes par le même système solaire, c'est un des plus gros échecs, enfin, de nos jours, c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. C'est-à-dire que c'est, mec, est-ce que t'as conscience de ce que tu viens de faire? Tu n'as pas le droit de faire ça.
Combien ça coûte,
cette C'est affaire. Ça, mais la honte pour ton unité, quoi. C'est juste, mais non, quoi.
Mais non, mais c'est intéressant, par ailleurs, sur cette notion de discipline, parce que ce qu'on voit assez bien, c'est une sorte de... Pas de réaction, mais si, c'est une sorte de négociation de l'idée qu'on est hyper discipliné, il y a la discipline militaire, mais en même temps, quand on meurt, quand c'est un truc à très haute intensité, quand ça meurt dans tous les coins, en fait, on s'autorise à faire d'autres choses. Quoi, c'est une justification, bon, parce qu'il y a une désobéissance grossière à un moment, mais il y a un truc de, oui, mais en fait, on meurt dans tous les sens, et du coup, autant qu'on meurt pour quelque chose. Donc il y a l'idée que quand il y a un combat de haute intensité avec des grosses pertes, en fait, on ne peut pas exiger la même chose des gens qui sont soumis à ça que sur le papier, à l'entraînement, en temps de paix, quoi.
Voilà, donc il y a une notion centrale qui est quand même celle d'injustice au combat, qui est un exemple tout bête. Il faut sauver le soldat Ryan. Moi, c'est un film qui m'a marqué, c'est une scène qui m'a marqué. C'est la scène du débarquement, hein, je pense qu'elle a marqué beaucoup de personnes.
Elle a changé l'histoire du cinéma de guerre,
ouais, mais moi, en tant que combattant, tu vois, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'injustice au combat. Je m'explique. Et en plus, je regardais Glory, justement, le film sur la guerre de sécession, pas plus tard que hier. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est sur des combats, on est dans des situations où quel que soit ton niveau d'entraînement, quel que soit ton niveau de performance, quelle que soit ton assiduité à la formation, à tout ce que tu veux, eh bien, quand ils vont ouvrir la barge, ou quand tu vas avancer en ligne face à l'adversaire, ça ne va pas changer grand-chose à ton avenir sur le champ de bataille. Parce que là, on est mis en tant que combattant, par le niveau d'échelon stratégique, face à une situation où, alors celui qui me dit que l'entraînement fait une différence sur un débarquement version D-Day 1944, je ne crois pas, enfin je veux dire non, c'est non, les mecs ils ouvrent la porte et en face, soit il y a le mec qui te vise avec la MG42, soit il ne te vise pas. Ce n'est pas le fait que tu saches faire 200 tractions sans suer qui va te sauver la vie. Et donc il y a vraiment cette notion d'injustice, si on peut dire, d'un point de vue combattant, parce que toi, en combattant, tu dis « je me prépare le mieux possible et je vais pouvoir avoir un impact sur le champ de bataille ». Et je pense que dans un conflit d'haute intensité, la grande différence, c'est ça. C'est que tu te rends compte qu'in fine, il y a cette notion de destin, il y a cette notion un peu d'injustice, et c'est beaucoup plus dur de rester discipliné et de croire en la méthode quand tu vois des personnes de valeur, voire des personnes meilleures que toi, partir de manière complètement injuste, un peu comme on peut le retrouver sur les théâtres actuels avec les VB, avec les IED, les choses comme ça. Donc tu peux avoir le meilleur combattant du monde qui est dans ton unité, ton véhicule, ton VAB, il roule sur une bombe de 200 kilos, bah voilà, super. Donc c'est très frustrant et du coup c'est très très dur de bien rester aligné, je pense, intellectuellement, à la rigueur, à la méthode dans ces cas-là, et c'est un petit peu ce qui est mis en avant dans le film, je pense.
Mais alors, dernière question, puisqu'on est d'accord que c'est un très bon film, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on en parle si peu? Pourquoi est-ce qu'il est à ce point-là peu connu? J'ai vu qu'il a un score absolument abominable sur Rotten Tomatoes de 25%. Enfin, il est vraiment très bas, alors peut-être qu'il a été un peu effacé par Top Gun. Il y a certes des incohérences, il y a certes des problèmes, mais si on commence à regarder un peu Top Gun de près, ça va pas être bien joli non plus, en termes d'incohérence scénaristique. Donc, deux questions. D'abord, quand est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que c'est un film qui est vu, par exemple, dans la marine ? Enfin, est-ce que c'est un film qui circule chez les militaires, qui est connu, voire mythique ? Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a pas percuté au-delà, puisqu'il y a grand réalisateur, grand casting, et je trouve, en tout cas, grand moyen, voire grande histoire ?
Alors c'est un film qui est connu, qui est moins connu que Top Gun. J'ai souvenir d'avoir vu Top Gun en salle d'alerte, donc on a déjà fait des soirées Top Gun sur le bateau. J'ai pas mémoire qu'on ait fait de soirée Le Vol d'un Intruder. La raison est, je pense, que Top Gun va dans les clichés, et c'est un petit peu le feel-good movie militaire. Donc ça renforce le mythe du héros, hein, du super pilote de chasse. On met de la bonne musique, on pose le cerveau, très bien. Mais on sait ce qu'on achète. On est sur du blockbuster, renforcement du héros, petite histoire d'amour et tout le monde est content. À côté de ça, je pense qu'avec Le Vol de l'Intruder, on est à cheval entre du réaliste et du légèrement comique. Parce qu'il y a des scènes légèrement comiques. Et du coup, on n'est pas sur une mise en scène assez réaliste pour en faire un film mythique sur voilà exactement à quoi ça ressemblait à l'époque, ce qui en ferait presque un film historique, parce que c'est par moments sur du ton léger, il y a des scènes drôles et tout, et la manière de jouer est un petit peu légère par moments. Mais en même temps, on n'est pas du tout dans la glorification de l'armée américaine, avec on ressort de là en ayant le sentiment que c'est voilà qu'on a été super puissant comme pilote pendant 90 minutes à cause de ces phases de doute et des pertes également du côté américain. Donc je pense que puisqu'on est un petit peu entre les deux, bah ça a pas vraiment réussi à prendre son envol sans mauvais jeu de mots, parce qu'on était à la croisée de deux chemins et je pense que c'est pas forcément un bon placement.
Ouais, on peut juste dire pour terminer que c'est vraiment extrêmement dommage, parce que c'est un film très agréable à regarder, très intéressant sur un moment, mais aussi sur un moment d'équipement, un moment où l'arme aérienne était conçue d'une certaine manière, notamment par les Américains, et aussi sur l'intersection, soit dit en passant, entre la guerre et la politique plus généralement, puisqu'on voit que ce qui se passe sur un théâtre peut avoir des conséquences diplomatiques et stratégiques plus larges. Donc, on recommande très vivement Le Vol de l'Intruder de 1991 de John Milius, le dernier film en date de John Milius. Ça a un peu coulé sa carrière de réalisateur, mais elle était déjà suffisamment remplie jusque-là. Merci beaucoup, Pierre-Henri Chouet.
Merci à vous, merci. Et puis bon visionnage, si vous ne connaissiez pas le film, c'est le ouais. moment d'aller le regarder. Il y a des belles scènes, bien pushy.
Ouais, et je renvoie tout le monde évidemment à votre chaîne YouTube et à votre chaîne Twitch, où vous produisez extrêmement régulièrement. Merci beaucoup.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.